VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 27 avril 2017. L'ex-président tchadien Hissène Habré condamné à la perpétuité en appel pour crime contre l'humanité. Le procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré renvoyé au 4 mai sur demande des avocats. RDC, signature de l'engagement particulier de l'accord du 31 décembre sans le rassemblement de Félix Tshisekedi. Raila Odinga désigné candidat de l'opposition à la présidentielle du 8 août au Kenya. La Syrie accuse Israël d'avoir tiré des missiles près de l'aéroport de Damas. Un navire espion russe a coulé en mer Noire. Le Venezuela entame son retrait de l'Organisation des États américains. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. L'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré restera derrière les barreaux, condamné à la prison à vie devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Sa peine a été confirmée en appel ce matin. Abdourahmane Dia.
L'audience de ce matin marque donc la fin d'un procès historique qui avait démarré en juillet 2015. Hissène Habré, condamné en mai 2016 à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture et viol, a toujours refusé de reconnaître la légitimité de la cour mise en place par l'Union africaine et le Sénégal. Mais pour Reed Brody, un avocat américain qui s'est battu pendant plus de 15 ans aux côtés des victimes tchadiennes, ce verdict est un message pour tous les dirigeants qui abusent de leur pouvoir.
Le message, c'est que, au pire, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, que s'ils commettent des atrocités, ils ne seront jamais hors de portée de leurs victimes. Les jours où les tyrans pouvaient utiliser leur peuple, piller le trésor de leur pays et s'installer avec leur compte en banque ailleurs, ces jours-là touchent à leur fin.
Selon une commission d'enquête tchadienne, le régime de Hissène Habré a fait plus de 40 000 victimes de 1982 à 1990. Il vivait au Sénégal depuis qu'il a fui le Tchad. Il devra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine.
Prévu ce jeudi, le procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et des anciens membres de son gouvernement accusés de complicité et d'homicide volontaire lors du soulèvement populaire a été renvoyé au 4 mai sur demande des avocats. Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Aussitôt ouvert, aussitôt fermé, c'est le constat fait ce jeudi sur ce qui est appelé le procès de Blaise Compaoré et les membres de son dernier gouvernement. En effet, la date d'ouverture du procès a coïncidé avec la rentrée solennelle du barreau. Alors, les avocats ont demandé un renvoi pour le 11 mai, mais la cour a retenu le 4 mai. Le palais de justice de Ouagadougou a refusé du monde ce jeudi. Les populations ont fait le déplacement en grand nombre pour voir les accusés et surtout le principal d'entre eux, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Malheureusement, il n'était pas présent. Il sera jugé par contumace. Mais on a pu voir l'ex-premier ministre Luc Adolphe Diaw, le général Djibril Bassolé et même le général Gilbert Diendéré cités comme témoins. L'atmosphère n'était pas tendue comme on pouvait le penser. Bien au contraire, les accusés se sont fait des accolades et l'ancien premier ministre Luc Adolphe Diaw a lâché à l'endroit des journalistes. Je suis serein. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En RDC, signature de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre sans l'aile du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, le point avec Eddy Issango.
C'est à l'absence des évêques catholiques, médiateurs du dialogue congolais, que les documents de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre a été signé aujourd'hui au Palais du Peuple, siège du Parlement à Kinshasa. S'étant déclaré non concerné, l'aile du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi n'a pas pris part à la cérémonie qu'elle a qualifiée de forfaiture. Dans une déclaration publiée avant la dite signature, cette frange du rassemblement affirme que le président Joseph Kabila persiste dans son entêtement des liquidités. Idée purement et simplement l'accord sous les évêques. Proche de Moïse Katumbi, les rassemblements Félix Tshisekedi appellent plutôt le peuple à des actions de protestation. Bien que représenté à la cérémonie des signatures de ce jeudi, les fonds pour le respect de la Constitution, coalition de l'opposition proche du parti de Jean-Pierre Bemba, s'est aussi déclaré non concerné. pour sa présidente Eve Bazaïba. Certains préalables, comme la libération des prisonniers politiques ou d'opinion, n'ont pas été respectés. Les documents signés à Kinshasa doivent permettre la gestion du pays et la tenue des élections reportées à décembre 2017.
L'ex-premier ministre kényan Raila Odinga a été désigné candidat de la coalition de l'opposition à l'élection du 8 août. Morgan Guiriec nous en dit plus.
La coalition d'opposition baptisée NASA a mis fin à plusieurs mois de suspense en annonçant le ticket présidentiel. L'ex-premier ministre kényan sera le candidat de l'opposition avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président, une fonction que ce dernier occupait dans un gouvernement d'union nationale de 2008 à 2013. La présidentielle de 2017 sera donc un remake de celle de 2013. Le ticket Odinga-Musyoka étant de nouveau opposé à celui d'Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto. Rappelons que le scrutin de 2013 avait donné cours aux pires violences électorales de l'histoire du pays en raison des doutes sur la crédibilité de la réélection de Mwai Kibaki. Plus de 1100 personnes avaient ainsi été tuées.
Plus de 95 000 Sud-Soudanais sont entrés au Soudan depuis le début de l'année, a annoncé l'ONU, alors que des milliers continuent de fuir la guerre et la famine. Le Soudan du Sud a déclaré en février l'état de famine dans certaines régions, affirmant qu'un million de personnes risquent de mourir de faim. Selon l'ONU, près de 390 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan depuis décembre 2013.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau rebondissement dans l'enquête parlementaire sur une éventuelle ingérence russe dans la présidentielle américaine de novembre. Deux membres clés de la Chambre des représentants affirment que le général Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, n'a pas révélé des paiements reçus de pays étrangers, notamment d'une chaîne de télévision russe. Timothée Donangmaï.
Le député républicain Jason Chaffetz, président de la commission de contrôle, et Elijah Cummings, principal député démocrate de cette commission, ont annoncé que le général à la retraite Michael Flynn n'a pas obtenu au préalable la permission de prononcer un discours rémunéré à Moscou lors d'un gala organisé par RT, une chaîne de télévision financée par la Russie. Flynn avait reçu 45 000 dollars pour ce discours, auquel s'ajoutent plus de 500 000 dollars pour ses efforts de lobbying en faveur du gouvernement turc. Le député Jason Chaffetz. En tant qu'ancien officier de l'armée, vous ne pouvez pas accepter de l'argent de la Russie, de la Turquie ou de quiconque. Et il semble qu'il ait pris cet argent. C'était inapproprié et il y a des conséquences pour cette violation de la loi. Dans le cadre de son enquête, la commission de contrôle a demandé à la Maison-Blanche de lui fournir tout document lié au contact du général Flynn avec des ressortissants étrangers. Toutefois, la présidence américaine a opposé une fin de non-recevoir à cette requête.
La Syrie a accusé Israël d'avoir provoqué une énorme explosion ce jeudi en tirant des missiles sur une position militaire près de l'aéroport de Damas. L'État hébreu a laissé entendre qu'il pourrait en être l'auteur. Une position militaire au sud-ouest de l'aéroport international de Damas a été la cible à l'aube d'une agression israélienne avec plusieurs missiles qui a provoqué des dégâts matériels, a indiqué l'agence Sana, citant une source militaire. Un navire espion russe a coulé au large de la Turquie en mer Noire après avoir percuté un bateau de transport de bétail, mais son équipage a pu être secouru. Le vaisseau russe Liman et le navire battant pavillon togolais se sont percutés à l'entrée du détroit du Bosphore dans une zone de brouillard. Les 78 membres d'équipage ont été secourus par les gardes-côtes turcs avec l'aide du navire de bétail, indiquait le ministre turc des Transports Ahmet Aslan. La collision s'est produite au large de la ville turque de Kilios, près de l'entrée du Bosphore, empruntée chaque mois par des dizaines de navires russes qui participent aux opérations militaires en Syrie. Le Venezuela, secoué par des manifestations meurtrières, entame son retrait de l'Organisation des États américains en réponse à la pression internationale. C'est la première fois qu'un pays quitte ce bloc régional basé à Washington. Le Venezuela accuse certains pays, dont les États-Unis, d'ingérence et d'interventionnisme dans le but de faire chuter le président Nicolas Maduro. Cuba avait été exclu de l'OEA en 1962 en pleine guerre froide lorsque les tensions avec Washington étaient au plus haut. La Havane refuse de réintégrer l'organisation bien qu'elle ait été réadmise en 2009. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, la Minute Éco qui vous est présentée par Jacques Aristide.
Le président nigérian Muhammadu Buhari demande au Parlement d'approuver un projet d'emprunt de 6,93 milliards de dollars. De ce montant, 5,85 milliards apprêtés par la Chine serviront à moderniser le réseau ferroviaire du Nigeria, alors que les fonds restants, soit 1,75 milliards provenant de la Banque mondiale, seront alloués à la reconstruction du nord-est du pays ravagé par l'insurrection de Boko Haram. Fin l'année dernière, le Parlement avait rejeté une proposition d'emprunt de 30 milliards de dollars pour éviter de grossir la dette du pays. La Banque africaine de développement compte débloquer 1,1 milliard de dollars pour faire face à l'insécurité alimentaire et la malnutrition sévère en Afrique et empêcher que la sécheresse ne donne lieu à la famine, annonce Adakinwumi Adesina, président de la BAD, lors d'une intervention devant des élus allemands hier. 20 millions d'Africains sont menacés dans des pays tels que le Soudan du Sud, la Somalie, le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie et l'Ouganda. Alger et Caracas soutiendront au cours de la réunion prévue le 25 mai à Vienne une prorogation de l'accord des pays producteurs membres et non membres de l'OPEP sur la réduction de la production pétrolière. C'est ce qui ressort d'une rencontre hier à Alger entre le ministre algérien de l'énergie, Noureddine Boutarfa, et le ministre vénézuélien du pétrole, Nelson Martinez. Les pays producteurs de pétrole avaient décidé l'an dernier de réduire durant les 6 premiers mois de cette année leur offre d'un 1,8 million de barils par jour pour soutenir les prix du brut.
À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Alors on commence par du football, bien sûr. Hein, triste nouvelle, la mort à l'entraînement de l'ancien international gabonais Moïse Brou-Apanga.
Il est mort des suites d'un arrêt cardiaque pendant qu'il s'entraînait hier avec son club de Libreville FC 105 pour reprendre la compétition samedi. Moïse Brou-Apanga jouait pour Timisoara en Roumanie de 1999 à 2000, puis pour Pérouse en Italie de 2000 à 2004, avant de rejoindre Brescia en 2004, où il est resté jusqu'en 2006. En France, il avait participé à la montée de Brest en première division de 2008 à 2012. L'ex-défenseur est revenu au Gabon en 2012 pour défendre les couleurs nationales à la Coupe d'Afrique des Nations de 2012. Le football Canon 105 de Libreville a repris cette année en provenance d'Omangasport.
Et la Tunisie, un nouveau sélectionneur?
Le nouveau technicien des Aigles de Karta s'appelle Nabil Maloul. Il avait déjà pris les commandes de l'équipe nationale en février 2013 avant de démissionner 7 mois plus tard. Et une grande tâche l'attend, Nathalie. La Tunisie reste en course pour une qualification mondiale 2018 qui serait sa première phase finale de Coupe du Monde depuis 2006 et disputera fin août, début décembre, septembre une double confrontation décisive contre la RDC.
On enchaîne avec la 35e journée du championnat d'Angleterre.
Un derby à 19h. Temps universel, le Manchester United et Manchester City, un match en retard de la Première Ligue, ou tout simplement un duel entre José Mourinho et Pep Guardiola. L'équipe victorieuse aurait l'avantage dans la course à la Champions League pour le reste du printemps.
Et en Espagne, rien n'est encore tranché entre le Real Madrid et le Barça. C'est aussi la 35e journée du championnat.
Les deux rivaux éternels du Real et du Barça sont coude à coude en tête du championnat d'Espagne. Ils attendent chacun un faux pas de l'autre. Les Barcelonais ont pris la tête de la Liga avec un total de 78 points devant le Real Madrid, 78 points aussi, mais une meilleure différence de but particulière est déterminante en cas d'égalité en Espagne. Le club de la capitale a par ailleurs un match en retard à jouer.
La 34e journée du championnat d'Italie qui débute demain, Eric.
Oui, c'est la Juventus qui se déplace sur la pelouse de l'Atalanta Bergame.
Merci beaucoup Eric pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. 2 ans après le début d'une crise politique majeure, le Burundi est plus que jamais dans l'impasse. Le dialogue inter-burundais et la communauté internationale n'ont pas pu mettre fin à la crise. Bien que l'on signale une certaine accalmie, nombre de Burundais vivent dans la terreur et beaucoup ont pris le chemin de l'exil. Solange Nyamuliza a joint Sylvestre Ntibantunganya, ancien président du Burundi.
En ce qui concerne la sécurité, moi je compare la situation à celle que je vivais en 2015, là où je suis à Bujumbura, dans le quartier de Gihosha, où pratiquement chaque nuit nous étions confrontés à des crépitements d'armes automatiques. Et je peux vous dire que depuis que je suis au Burundi, il y a d'autres là 4 mois et demi, je peux dire que je n'ai jamais entendu un coup de feu là où je suis. Et je peux vous dire que quand je vais à la messe, je vois un afflux massif des chrétiens, comme cela a été, et dans leur diversité. Je peux vous dire qu'il y a également fréquentation des marchés publics, et visiblement, ça a beaucoup de problèmes. Et c'est donc qu'il y a sous cet aspect et quelque chose qui a changé. Évidemment, il y a des situations de disparition de personnes qui sont régulièrement reportées ou dont on entend parler sur les réseaux sociaux, mais l'intensité, comme je vais te le dire, a fortement diminué. Il y a un aspect important qu'il faut souligner. Et le Burundi connaît une grave détérioration des conditions de vie des populations, notamment en ce qui concerne la accès à la nourriture, par exemple, où on a des problèmes ici et là qui sont signalés. Mais également, on a des problèmes sociaux. On a une grève à l'université du Burundi qui est liée à une nouvelle politique annoncée de prêt bourse. Ce sont des interrogations qui sont là, évidemment, sur le plan politique. Dialogue inter-burundais facilité par l'ancien président de la Tanzanie, Mukapa, sous la médiation du président de l'Ouganda. À mon avis, piétine, puisqu'il n'y a rien qu'on peut dire avoir atteint jusqu'aujourd'hui.
Comment expliquer le fait que le gouvernement et les opposants campent sur leur position?
Je pense que nous avons ici ce problème au niveau de la perception des responsabilités des uns et des autres. Vous savez, quand on est face à une crise, à un certain moment, il faut que les différentes parties en présence sachent chacun faire les concessions qu'il faut pouvoir permettre au pays d'avancer. Nous avons besoin que le Burundi avance. Que le Burundi avance en matière de paix, en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie et en matière de développement économique et sociale. Et pour que cela puisse avoir lieu, il y a une nécessité de sérénité politique entre différents protagonistes.
Alors, quels sont les moyens de sortir le Burundi de cette crise?
Il ne faut jamais désespérer. Je pense aussi aujourd'hui qu'il y a lieu que la région puisse se mettre ensemble en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Et l'intérêt majeur que tout le monde devrait partager, c'est la paix, la quiétude et la concorde entre les Burundais, mais également la paix, la sécurité au niveau de toute la région.
C'était l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Direction le Tchad, plus précisément dans la région du lac Tchad, à Bagassola, où Boko Haram avait frappé pour la première fois le territoire tchadien en octobre 2015. Notre envoyé spécial Nicolas Pinault y a rencontré des victimes des attentats suicides.
Des arbres à la cime calcinée, des branches arrachées, le marché de Bagassola porte encore les stigmates de l'attaque du 10 octobre 2015. C'est là qu'une kamikaze a déclenché sa bombe au milieu des passants. Abdourahmane, un commerçant, se souvient.
Le jour de l'attaque, après l'explosion, c'était tout noir avec de la fumée partout et on ne voyait rien. C'est après que j'ai vu qu'il y avait un cadavre juste devant moi. J'ai vite remballé et je suis rentré chez moi.
Ce jour-là, d'autres explosions suivent dans le quartier périphérique de Kousseli. 13 membres d'une même famille périssent. Leur tort avoir laissé rentrer chez eux une kamikaze qui demandait de l'eau. Elle s'est faite exploser en entrant dans la maison. Boko Haram est désormais un problème tchadien. Cette première attaque sur le territoire national fait 43 morts et marque les esprits, comme l'explique Mahamat Jida, le secrétaire général de la mairie de Bagassola.
On entendait ce que vous êtes, ce phénomène, mais ces Boko Haram ne sont pas venus de nous au Bagassola. Vraiment, ça nous a créé une grande tristesse, c'est-à-dire ça a eu beaucoup de troubles. Toute la population a été troublée, ils ne savent où aller. Il y a une dépendance totale de la ville.
Un an et demi après ces attentats, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée, même si les motos, mode de transport préféré des djihadistes, ne peuvent circuler après 18h à Bagassola. Dinoya Swapebe est le préfet du département de Kaya, région du lac.
En tant que préfet du département, mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui nous sommes à 0 mètre carré occupés par Boko Haram sur le territoire du département de Kaya. La preuve est qu'aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité sont sur le sol nigérian à la poursuite de Boko Haram. Le mouvement des motos, ça se contrôle au niveau de la ville. À Bagassola, 18h, vous êtes 18h, vous ne sortez plus avec votre moto, vous n'entrez plus avec votre moto.
Si Boko Haram périt par les armes, nombre de vies bouleversées par les djihadistes mettront des années, voire plus, pour se reconstruire. Avec ses béquilles, Tchelou Aladj tente de se déplacer normalement. Cette petite fille de 9 ans a perdu son pied gauche dans une attaque kamikaze. Sa mère, Yangou Abdou, se souvient de ce jour d'octobre 2015, où son destin a basculé.
Après l'explosion au marché de Bagassola, ma fille a couru et est revenue vers la maison à Kousseri, mais c'est là qu'il y a eu une autre explosion et qu'elle a perdu son pied. Aujourd'hui, elle ne peut plus aller en brousse ou aller au marché. Elle doit rester à la maison. C'est difficile.
Environ 100 000 réfugiés et déplacés sont présents autour du lac. Ils espèrent pouvoir rentrer chez eux. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Une petite escale en République du Congo, où le gouvernement affirme qu'il va s'adapter à la crise pétrolière qui le frappe de plein fouet depuis 2 ans. Son budget accuse sérieusement le coup. Les autorités comptent sur les réserves prouvées de pétrole et la surproduction pour relancer l'économie. Un reportage de Nguelan Goussou.
Le Congo ne se remet toujours pas de la crise pétrolière qui affecte lourdement son budget. Les pénuries récurrentes de carburant et de gaz ont ajouté à la morosité économique des tensions sociales. Mais les autorités estiment qu'il faut s'adapter à la nouvelle donne car les lendemains pourraient être meilleurs. Jean-Marc Tisser-Tikaya, ministre des hydrocarbures.
La production de la République du Congo est sur une tendance haussière. Celle-ci devrait passer de 232 000 barils jour en 2016 à 282 000 barils jour en 2017 et plus de 350 000 barils jour en 2018, son pic le plus haut jamais atteint, et assurer des réserves prouvées sur les 25 années à venir de près de 1,7 milliard de barils. Ensuite, la récente mise sur le marché international d'une partie des blocs libres de notre domaine minier dans le cadre de la promotion 2016-2017 permettront de relancer l'exploration afin de renouveler nos réserves.
Chez Total, le principal opérateur pétrolier dans le pays, on pense qu'il ne faut pas compter sur une hypothétique remontée des cours. Pierre Joshua, le directeur général de Total EP Congo, prêche plutôt la rigueur budgétaire dans la gestion de l'industrie pétrolière.
Il faut s'adapter. On ne peut pas attendre une remontée hypothétique des prix du pétrole. Et il faut retrouver des marges de rentabilité. Et ces marges, elles se retrouvent grâce à de la discipline budgétaire, à des réductions de coûts. Et le groupe Total a été, le premier à lancer cette tendance.
Le Congo reste convaincu qu'en produisant plus, les recettes augmenteraient. Un projet de construction de pipeline entre Pointe-Noire et Wesso dans le Nord sera un bon outil pour vendre les produits pétroliers vers la RDC, le Cameroun et la RCA. Norbert Mabiala est le directeur des études à la Société nationale du pétrole du Congo.
Ce pipeline répond à un besoin qui est la croissance de la consommation nationale, qui est aujourd'hui très forte, autour de 5% par an. C'est la même situation dans les pays de la sous-région. notamment les pays autour du Congo. Et donc ce pipeline fait que le Congo, avec sa vocation de pays de transit, au-delà de la consommation des produits pétroliers au niveau local, sur le marché local, va également servir de transit des pays de la sous-région.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche, l'heure d'un premier bilan avec des promesses de campagne ambitieuses, des dossiers syriens, coréens à l'immigration, en passant par la construction du mur avec le Mexique, ou encore le délicat démantèlement de l'Obamacare et une réduction sévère de l'aide internationale. Quelles sont les promesses déjà réalisées? Quelle place pour l'Afrique dans ces 100 premiers jours? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Et justement, la politique fiscale du président américain présentée mercredi dans ses grandes lignes fait l'objet d'un débat ici aux États-Unis. L'administration Trump assure qu'elle dopera la croissance et donc l'économie nationale à travers une réduction d'impôts pour les entreprises et les citoyens ordinaires. Certains hommes politiques et analystes redoutent qu'une telle approche creuse davantage le déficit budgétaire. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de l'économiste Pierre-Marie Boisson.
C'est premièrement un plan de réduction d'imposition. Par exemple, le barème maximal passe de 39,6, si je ne me trompe pas, à 35%. Donc, il y a une réduction d'impôts. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une quasi-élimination de toute une série de déductions admissibles et une réduction, je crois, 2 ou 3 de ces déductions-là. Ce qui fait que ça équilibre un petit peu l'impact, je dirais, réducteur, donc l'impact négatif des baisses de taux d'imposition. Parce que quand vous payez les impôts, bien sûr, il y a la possibilité de réduire la base imposable à partir d'un certain nombre de déductions. Donc ces déductions sont considérablement simplifiées et réduites. L'idée derrière ce plan est d'abord de stimuler l'économie, parce que quand on réduit, il y a une théorie, enfin il y a une attente que quand on réduit les impôts sur les entreprises particulièrement, on permet à ces entreprises de devenir beaucoup plus agiles, beaucoup plus compétitives et donc d'augmenter la croissance économique.
Certains disent que ce plan va creuser le déficit budgétaire national, la dette nationale.
L'idée c'est d'augmenter la croissance en réduisant l'imposition et par ce fait même de contrebalancer la baisse de recettes qui est théoriquement toute chose égale par ailleurs, qui résulte de la baisse des taux, contrebalancée par l'impact positif sur ces recettes-là d'une augmentation de l'économie elle-même. Ensuite, bien sûr, pour les consommateurs, augmenter leurs revenus familiaux nets en diminuant la charge fiscale qui leur est imposée. Voilà, grosso modo, ce que j'aurais dit qui sont les temps forts de ce plan-là.
Quelles sont les chances de ce plan au Congrès où les républicains de Donald Trump contrôlent tant la Chambre que le Sénat?
Le principal problème de ce plan-là, qui pour moi pose une grande incertitude sur son adoption même par les républicains, d'après tous les analystes et d'après le bon sens même, l'élimination et le remplacement de l'Obamacare avait comme principal objectif de réduire les charges que ceci imposait, les subventions que ceci imposait à l'État. Donc ça devrait permettre de contrebalancer un petit peu la baisse des impôts. Donc n'ayant pas ce plan de santé et aussi avec l'ambition que M. Trump a aussi de faire un programme d'infrastructure assez important, tous les analystes prédisent que ce plan va générer une augmentation considérable de plusieurs trillions de la dette publique de l'État américain au cours du mandat de Trump. Or, c'est un des points de critique des républicains envers les administrations précédentes.
L'économiste Pierre-Marie Boisson était joint à Port-au-Prince en Haïti.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, c'était Joe Gill. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.